Nous sommes en juin 2011 et vous écoutez Proxy Jeux. Dans ce dossier spécial écran, on va vous présenter le module Vassal, enfin Vassal et ses modules. On reçoit Damien et Laurent avec nous qui vont nous présenter donc un petit peu plus en détail tout ce que fait Vassal, puisque moi par exemple pendant longtemps je ne savais pas. Je connaissais le nom mais je n'ai jamais pris le temps de creuser. Et je pense qu'on est nombreux comme ça, donc ça va être l'occasion de découvrir tout ça.
Et une nouvelle fois, nous sommes sponsorisés par les boutiques Philibert. Bonjour Damien.
Bonjour.
Donc, toi tu es webmaster pour ForgeNext, c'est ça? Ouais. Dont Laurent est gérant.
Co-gérant, oui.
Co-gérant avec Gaëtan Beaujano. Et donc moi, oui, je suis webmaster, entre autres. J'interviens sur les deux sites, sur ForgeNext et sur VasselForge. Et c'est ce que je fais, entre autres.
D'accord.
On a plusieurs casquettes chacun, en fait.
On va recommencer, on va commencer du début. Qu'est-ce que c'est que Vassal, pour les gens qui ne connaissent absolument pas?
Donc Vassal, bah, je te laisse Damien, vas-y.
Vas-y, je t'en prie.
Bah, Vassal, c'est un moteur open source américain qui permet en fait de dématérialiser vos tables, vos plateaux de jeu et de les mettre sur un écran d'ordinateur. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais vous avez votre jeu de société qui est mis à l'écran. Vous lancez les dés, vous avez vos decks de cartes, vous posez vos cartes, vous bougez vos pions manuellement. Donc c'est gratuit et c'est un outil extrêmement puissant et performant, bah, bien évidemment pour rassembler les joueurs qui sont dispatchés aux quatre coins de la planète, mais aussi comme outil de test pour tout ce qui est l'affinage des prototypes de jeux. Et là on en parlera peut-être un peu plus puisque pour nous c'est l'intérêt d'intégrer VassalForge dans ForgeNext.
D'accord, et quand tu dis ça permet de dématérialiser le matériel d'un jeu de société, c'est du temps réel, on joue en temps réel comme dans jeu sur un plateau par exemple ou
Ouais, il y a plusieurs options, donc oui tu peux jouer en temps réel, mais tu peux aussi sauvegarder tes parties et les envoyer aux autres joueurs et jouer comme ça. C'est moins pratique, mais ça se fait aussi.
Il y a donc une possibilité pour jouer solo également.
Ouais, tout à fait.
T'as pas d'intelligence artificielle, donc tu dois jouer avec quelqu'un d'autre.
Ouais, tu perds l'intérêt de.
Mais tu peux envoyer tes parties sauvegardées à l'autre personne qui peut avancer, etc. Donc,
D'accord.
C'est ce que je voulais dire dans ce sens-là. Un module Vassal, tu peux le lancer en observateur, donc tu regardes les autres jouer sans participer à la partie, ou tu peux le lancer en offline, et donc là tu le testes tout seul dans ton coin. C'est pas une vraie partie, mais tu peux manipuler le matériel tout seul, et puis bien évidemment le but c'est de jouer online avec d'autres joueurs.
Ça peut te permettre de découvrir un jeu aussi avant un achat tout seul, comme un classique open the box. Tu peux manier les différents objets, objets du jeu.
Surtout que j'ai vu, vous respectez les graphismes des jeux originaux. Là, il y a Evo là depuis quelques jours.
C'est une condition sine qua non. Autrement, on n'a pas les accords des éditeurs. Donc en fait, il y a deux axes principaux. On travaille avec les éditeurs pour mettre en avant-première un certain nombre de lourds jeux. Donc par exemple, si on parle d'Evo avec les studios Descartes, donc c'est effectivement. Donc ça permet de faire buzzer sur un jeu et ça permet aux joueurs d'avoir un open the box réel et de tester un peu le jeu avant qu'il sorte, et donc de voir si c'est quelque chose de fait pour eux. Ça va quand même un peu plus loin que la simple lecture des règles. Et puis il y a toute une autre partie qui est le test de prototype qu'on fait avec l'agence ludique ForgeNext. En termes de coûts, c'est phénoménal, parce que imagine un auteur qui a un jeu avec pas mal de matériel. On teste son truc, on lui casse toute la machine, on lui dit il faut que tu vires la moitié de tes cartes, il faut que tu reformates ton plateau de telle manière, ceci, cela, parce que ça marche pas, et tout, en quelques clics simples de programmation, etc., tu recrées un module et tu avances à la version suivante très rapide. Dans la vraie vie, s'il faut se palucher de replastifier les cartes, de refaire un proto, machin, etc., à la dixième version, tu pleures, quoi. Donc après, tu as certains auteurs qui sont capables de faire abstraction et d'avoir trois coups d'avance dans leur tête tout en jouant avec un proto qui est donc trois versions avant. Ça, c'est très rare. Donc là, c'est quand même assez confortable. Et pour les protos, ce qu'il faut voir, c'est qu'on joue. Vous auriez sûrement peur de voir sur quoi on joue au niveau des protos. Ça peut être des crowbars, ça peut être des trucs très minimalistes, parce que c'est pas ça qui est important dans le test du proto, quoi.
Ouais. Par contre, il faut quand même implémenter un peu les règles à chaque fois dans le module, quoi.
Oui. Ça, c'est pas forcément
ce qu'il y a. Pas grand-chose, ouais.
Il y a plus long. Par contre, quand on met le module en ligne, etc., là, il y a un produit fini qui est propre avec les beaux graphismes, etc. Là, forcément, parce que c'est important.
D'accord. Et au niveau des plateformes, ça marche sur Mac, PC, Linux, toutes les plateformes.
Ouais, c'est toutes les plateformes.
C'est en Java, donc ça se lance sur n'importe quoi. Enfin, sur PC, Mac et Linux.
Oh oui, tu peux copier le moteur sur ton ordinateur portable, enfin bon, il n'y a pas de souci.
Oui, j'ai vu qu'il y avait même une version mobile, on peut copier ça sur une clé et puis l'emporter comme on veut un peu partout.
Exactement, donc quand on fait des présentations à des éditeurs ou des choses comme ça, c'est extrêmement facile, c'est vraiment très très pratique.
D'accord. Votre catalogue, il est étoffé? Vous avez combien de jeux en base?
Waouh. Joker. Alors, donc il y a un site Vassal.
Je vais peut-être éviter les chiffres en fait.
Des souffles sinon.
Moi j'en ai plein après, mais.
Si, il y a certains chiffres. Tu me demandes le nombre de chargements. Je vais pouvoir te le dire, mais le nombre de modules, c'est assez impressionnant parce qu'en fait t'as une banque de données Vassal qui est accessible à tous. Après, si tu me demandes combien de modules on a fait sur Vassal Forge, un certain nombre effectivement aussi.
Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le catalogue, entre guillemets, que vous proposez de jeux est étendu? Si on a beaucoup de wargames américains, ou alors si on peut également trouver des jeux européens, enfin des Eurogames, c'est un peu ça que je voudrais savoir, la diversité, et puis savoir si on trouvera son bonheur si on est un joueur lambda.
Ouais, tu trouveras ton bonheur. Alors c'est sûr, c'est vrai qu'à l'origine, comme ça vient des Américains, c'est à la base beaucoup de wargamers qui utilisent ça effectivement parce que c'est très pratique pour trouver des joueurs, tu sauvegardes les parties, etc., etc. Donc il y a énormément de tous les jeux GMT en général sont mis sur Vassal, mais depuis quelques années. Pas que. Tu vas trouver ton bonheur en étant un joueur lambda classique avec des modules Vassal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de jeux qui se prêtent absolument pas à un portage Vassal. C'est par exemple les jeux d'ambiance.
Oui, forcément.
Et les party games ou ce type de jeux-là sont pas du tout. Tu peux pas faire un module sur Vassal pour ce type de jeu. Donc si t'es plutôt un joueur de ce type de jeu-là, c'est sûr que Vassal n'est pas fait pour toi.
Et il y a d'autres jeux que techniquement vous n'arrivez pas à porter. Voilà, je parle pas de la mécanique qui ne permet pas, enfin qui perd le sens quand on est devant un ordinateur et que. On échange avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, mais plutôt, je sais pas, parce que vous savez pas gérer telle ou telle mécanique du jeu qui fait que vous ne pouvez pas porter le jeu.
Non, après, ça va dépendre un peu des capacités de programmation.
Par exemple, les enchères, vous savez faire ça? Il y a des jeux enchères que vous proposez?
Evo.
Ouais, tout à fait. Ouais. Evo, c'est un jeu d'enchères.
Avec une forme d'enchère qui est quand même bien particulière où.
Mais tu peux faire des enchères cachées, oui, tout à fait, ça s'y prête, tu peux tout à fait avoir ça. Ouais.
D'accord.
Non, c'est vraiment les jeux d'ambiance, Angel Gun Speed ou des choses comme ça que tu vas pas pouvoir, ou un Time's Up que tu vas pas pouvoir mettre sur Vassal.
On sait que généralement c'est souvent lié aussi à une utilisation de Skype, donc pour tout ce qui est négociation, il y a pas de souci, que ça soit par écrit ou par oral, tu peux toujours. Tu joues en même temps que comme une partie réelle, donc Après, techniquement, n'importe quelle mécanique peut être adaptable.
Oui, tu peux bien évidemment influencer ton adversaire.
Oui, tu peux essayer de tricher.
C'est un peu moins facile de l'influencer physiquement, mais...
Ah, il y a les webcams.
Ah, ouais. Sur Skype, ça marche quand même plutôt pas trop mal, ça va.
Parce que je vois que vous avez quand même pas mal de jeux coopératifs, notamment. Il y a Ghost Stories, Pandémie, il y a Battlestar Galactica. Alors, Battlestar Galactica, c'est peut-être un peu spécial comme jeu, non? Jouer à distance. Puis ma suspicion qu'il y a autour de la table habituellement, je sais pas comment il peut se créer.
Alors après, il y a aussi une chose, là, c'est que, par exemple, Battlestar Galactica, c'est pas un module qui a été fait par Vassal Forge. Il y a de nombreux modeurs qui font des modules pour Vassal. Et nous, on intervient sur certains, on en fait pas mal, mais tous les modules de Vassal ne sont pas faits par Vassal Forge. Donc Battlestar Galactica notamment. On relaye les grosses sorties de modules quand les modeurs, quand les éditeurs sont d'accord pour que leur jeu soit porté sur Vassal. Et ensuite, on a nos propres modeurs dont Gaëtan fait le plus gros du travail et on relaye aussi nos propres modules.
Alors ça veut dire qu'il y a des niveaux de qualité différents entre les. On peut avoir des surprises sur certains modules ou pas?
Il y a des personnes qui mettent sûrement plus de temps que d'autres à faire un module. Après, nous, on essaye de faire en sorte que le module soit de qualité, qu'il n'y ait pas de bug. Donc, on fait du debug sur notamment, bon, là, le dernier sur Evo, on a passé également pas mal de temps à débugger pour que tout fonctionne correctement. Que ça soit aussi accessible, donc ça ne sera pas exactement le même placement que sur une table, mais donc il faut s'adapter de toute façon aux deux écrans, aux écrans. Et donc du coup, après, oui, il y a une qualité qui peut être différente suivant les modeurs.
Oui, bah, par exemple, sur Evo, il y a des compteurs qui ont été mis qui n'existent pas dans le jeu réel pour permettre, parce que les joueurs voient bien évidemment ce que les autres joueurs ont devant eux en termes de dinosaures qu'il leur reste ou sur le plateau. Donc ça a été simulé sur les écrans Vassal pour un meilleur confort des joueurs qui jouent en ligne.
Ouais, effectivement.
Mais on touche pas du tout, les mécas sont les mécas d'original, les graphismes sont les graphismes originaux, oui.
Et un jeu comme Evo par exemple, c'est combien de temps de développement?
Beaucoup.
Plus le test et tout. Ouais, c'est beaucoup, j'imagine.
C'est
mais
beaucoup.
Pour se donner une idée à peu près.
Bah là, on est à plus de 100 heures. Hein.
D'accord. Ouais. Bon, ça va.
C'est un gros travail quand même.
Ouais, c'est.
Vous faites ça dans votre temps libre ou c'est votre profession en tout cas? Vous vous occupez vos journées?
Non, on fait ça la nuit. Enfin, on fouette Gaëtan la nuit et il fait les modules le lendemain.
Non, on passe beaucoup de soirées dessus. Hein, on se partage le travail. La grosse partie technique est faite par Gaëtan. Et après, on dispatche ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a pas mal aussi de parties graphiques en découpant les maquettes qui sont fournies par les éditeurs. Et après, il y a aussi beaucoup de parties de test avant de le mettre en ligne et de le proposer en test aux éditeurs ensuite. Donc ça fait pas mal d'heures cumulées, mais après, ça dépend le module. Il y a des modules qui sont beaucoup plus difficiles à sortir que d'autres. Des jeux de cartes un peu avec des mécaniques moins compliquées, dès qu'il y a beaucoup de matériel, il y a forcément beaucoup plus d'heures de travail.
Ouais. Evo, c'est un gros projet. 3, c'était un gros projet aussi qui nous a demandé pas mal de suivi derrière pour faire un certain nombre de corrections. C'est des jeux qui sont pas si faciles que ça à porter sur Vassal, ça se fait, mais oui.
Et en général, c'est vous qui allez vers les éditeurs ou plutôt maintenant que vous avez une renommée qui est suffisante pour que les éditeurs viennent vers vous?
Il y a les deux. Mais on fait effectivement beaucoup de sourcing. Donc les éditeurs français nous connaissent parfaitement. Je m'occupe moi pas mal de sourcer sur BGG. Donc on avait fait Alien Frontier pour Cleaver Mojo Games parce qu'on était partie prenante au niveau du Kickstarter. Donc ça, c'est un jeu qui a très très bien marché. Donc oui.
Et est-ce qu'il arrive que certains éditeurs veulent pas porter leur jeu chez vous?
Alors non, mais c'est vrai que quand on aborde un éditeur qui connaît pas forcément l'outil Vassal La première crainte pour eux, c'est « Ah, ça va nous faire chuter les chiffres de vente si on, si on met en ligne le jeu complètement débridé et accessible à qui que ce soit. » Donc ça, c'est un peu une croyance qu'ils ont.
Peur,
donc, c'est la vieille peur
de l'internet.
Ouais, tout à fait. Donc il faut les rassurer à ce niveau-là, alors que c'est complètement l'inverse. Le fait de pouvoir buzzer sur le jeu, de donner l'opportunité aux gens de vérifier que ça va convenir à leur groupe de joueurs, etc., n'a que des effets positifs. Donc,
c'est pareil que pour les Board Game Arena en français ou Brettspielwelt allemand.
Ouais.
De jeux en ligne, c'est les mêmes.
Tout à fait. Maintenant, rien n'empêche de faire comme pour les jeux vidéo, de faire des éditions bridées où vous avez un niveau ou une map ou deux maps, enfin ce genre de choses, et pas le jeu complet. Mais jusqu'à maintenant, ça nous a pas été demandé. On a toujours eu les versions complètes, mais Vassal peut se prêter aussi à ça. Puis après, comme des jeux sur Rallyman ou des choses comme ça, bah vous avez des communautés qui sont extrêmement actives et puis les gens créent leur propre circuit, leur propre championnat, etc., etc.
Ouais, c'est peut-être ce qui vous démarque un peu des sites comme justement boîte à jeux où en fait c'est assez figé, vous avez le jeu et pas plus. Là, c'est peut-être la communauté qui fait la différence.
Oui, bah là on a eu quand même 300 000 téléchargements. On a le mois dernier, enfin on a atteint nos 300 000 téléchargements. C'est quoi, un an et demi, hein, c'est ça, Damien?
Ouais, à peu près.
Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a du monde qui télécharge Vassal, ouais, des modules Vassal.
Cet aspect communauté, vous cherchez pas à le développer outre mesure?
Bah, on manque de temps déjà.
D'accord. Non,
mais... Dans un premier temps. Après. Ça se fait un peu tout seul. Il y a aussi pas mal une communauté aussi autour de Leader One. Tout ce qui est Rallyman, c'est directement sur le site de Rallyman, rallyman.fr. Et donc nous, de notre côté, pour l'instant, c'est pas ce qu'on essaye de développer. Peut-être plus tard.
D'accord. Tu parlais de Leader One, c'est quoi ?
Leader One, c'est un jeu de BlackRock. De vélo, de course de vélo.
D'accord.
Okay. Et qui marche aussi également pas mal par système de tournois ou de compétitions avec différentes courses qui se suivent, qui sont organisées sur notre forum ou sur d'autres forums. C'est beaucoup des jeux de course comme ça qui s'organisent au niveau des tournois. Et voilà.
Oui, ouais, ils ont fait une extension Giro sur le Tour d'Italie. C'est vraiment une très très bonne simulation pour les. Il y a très peu de jeux sur le cyclisme et ça fait vraiment partie des titres phares pour ceux qui aiment ça. Donc,
ouais, j'ai vu sur votre forum il y a une rubrique championnat. C'est aussi ce qui vous démarque des jeux en ligne un peu plus classiques.
Bah, disons que ça peut se gérer tout seul. T'as pas réellement une fois que tu as téléchargé le module. Et le client et Vassal, tu peux organiser toi-même le tournoi. T'as pas besoin de serveur ou d'être spécialement sur un site particulier. Après, tout se gère par Skype. Tu invites qui tu veux ou par forum. Mais disons que c'est pas centralisé sur un site en particulier. Nous, on n'a pas besoin réellement d'intervenir pour organiser le tournoi. Si un groupe de 5 potes veut organiser son tournoi, on n'a pas besoin d'intervenir spécialement.
Et là, pour rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, comment ça se passe si moi j'installe le moteur Vassal sur mon poste, je veux vous faire jouer, vous allez vous connecter à mon poste ou...
Non, il y a un serveur américain qui héberge l'ensemble des parties. Du coup, tu ne peux pas héberger toi sur ton PC une partie, ce qui peut poser certains problèmes. Après, moi, j'ai jamais vu le serveur planté. Enfin, je sais pas, Laurent, si ça te dit quelque chose, mais...
Si, ça arrive de temps en temps.
Ça arrive, voilà. Bon, ça peut être un problème, mais bon. Tu peux pas héberger, donc du coup, quand tu commences une partie, c'est une partie forcément en ligne, quand tu veux jouer à plusieurs, du moins, c'est une partie en ligne qui est hébergée sur ce serveur. Tout le monde arrive sur une sorte de chatroom ou de... Enfin, un espace où tu peux inviter certaines personnes. Tu rejoins la partie... Et ça peut être une partie tout à fait privée, sans accès à d'autres personnes.
Oui, tu peux verrouiller la chambre pour éviter que des joueurs viennent en cours de route s'inscrire sur ta partie. Et on a tous les tutoriaux nécessaires pour se connecter, pour aider à créer un module Vassal. On a en général aussi des vidéos sur les jeux qu'on lance. L'interface, est, pour les gens qui ne connaissent pas trop, est un peu, on va dire, austère, un peu brute. mais ce n'est pas très compliqué du tout. Hein, donc, Vassal, c'est une boîte à outils hein, pour la programmation.
Ouais, je voulais revenir sur ce point-là, justement. Enfin, moi, je sais que Vassal, bon, c'est pas un nom qui m'était inconnu avant ce soir, mais à la fois, j'étais allé voir, j'avais voulu me lancer, effectivement, ce côté un petit peu... On arrive sur le site, il n'y a pas beaucoup d'infos non plus, et quand on est devant le module, devant les modules, on hésite un peu, enfin, on ne sait pas trop où cliquer, on ne sait pas trop... Effectivement,
Tu parles de l'ancien site?
Non, je parle même du site de maintenant. Tu télécharges Vassal, mais voilà, après, il faut aller chercher les modules, et puis tu te trouves face à une interface, puis tu sais pas, t'hésites au début, de toute façon tu lances une partie à un joueur, et puis t'essayes, tu déplaces les cartes, tu cliques sur les dés, et puis...
Alors, c'est pour ça qu'il y a des tutoriels en vidéo à suivre, des tutoriaux même, qui sont généralement plutôt bien expliqués, en pas à pas, et qui sont accessibles dès... en tout cas, sur notre site, on a directement dans le menu... un menu tutoriel.
Ouais, je suis en train de regarder.
Donc, justement, il y a l'utilisation de Vassal. Généralement, sur les gros modules qu'on sort, les nôtres en tout cas, il y a des vidéos de prise en main du module qui sont faites. D'accord. Vous entendez la belle voix de Gaëtan.
Donc, pour Evo, il y en a un, par exemple.
Pour Evo, il y en a un, oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui marche ? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les jeux qui ont vraiment bien marché, vos tops des téléchargements, et puis si vous avez eu des déconvenus, c'est-à-dire que est-ce que vous avez mis en ligne des jeux qui ne sont pas téléchargés, qui n'ont pas plu, qui n'ont pas rencontré leur public?
Il y a forcément des modules qui sont les jeux qui buzzent avant de sortir en module vont forcément être plus téléchargés. Après, nous, de notre côté, on n'a pas réellement de... Bon, 3 a été téléchargé 2000 fois, je crois, enfin, a priori, ce que je vois sur le site. Ce qui peut paraître pas si énorme que ça, mais en même temps, 2000 téléchargements par rapport au nombre de boîtes qui sortent, c'est pas si mal que ça. Pour l'instant, Evo a atteint environ 400 téléchargements. Voilà, depuis sortie, il y a 2 semaines. C'est ça, hein.
Même pas, c'était la semaine
dernière.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc ça tape pas non plus des téléchargements astronomiques, mais après bon, ce n'est pas non plus accessible à tout le monde, dans le sens où tout le monde ne veut pas jouer sur PC, enfin du moins sur un ordinateur. C'est bien particulier. Après, ça permet de découvrir un jeu. Ça permet aussi de faire des parties complètes. Et en nombre de téléchargements, un jeu qui s'est téléchargé 2000 fois, ça doit être dans les meilleurs scores.
Je peux revenir sur 2-3 trucs qu'on a zappés avant.
Oui, rapproche-toi un tout petit peu de ton micro et oui.
Ouais, c'est par rapport, notamment, on parlait des éditeurs... En fait, mes deux questions, elles sont liées. C'est vous faites ça gratuitement ou derrière vous avez un gain? C'est les éditeurs qui vous payent ou c'est juste le plaisir de faire découvrir les jeux?
Alors oui et non.
Après, il y aura Forge Next, mais j'aurais des questions là-dessus, ouais. Mais
ouais. Donc en général.
Oui et non, c'est du noir, c'est du black.
non, c'est y a une rémunération à la clé et ça dépend un petit peu de l'offre qui est fournie. En général, pour des jeux qui sont en avant-première ou autre, il y a pas de paiement. Par contre, si c'est des jeux que l'éditeur souhaite mettre en ligne, il y a des offres de package ou des choses comme ça. Pareil pour des tests de proto ou autre.
Tu veux peut-être nous présenter Forge Next ?
Oui. Alors Forgenex, c'est quoi? Forgenex, c'est une agence ludique donc qui intègre Vassal Forge. Donc comme je l'ai dit, il y a 5 personnes, dont 2 co-gérants. On utilise Vassal Forge pour toute la partie testing pour les prototypes. Il y a Bonnie qui est plus en charge de tout l'aspect, on va dire graphique, s'il y a besoin de retoucher les graphiques FISM d'un jeu. Gaëtan s'occupe plus particulièrement de tout l'aspect programmation des modules Vassal. Arnaud Urbon aide énormément pour la finalisation des réglages de méca. Damien, comme il vous l'a dit, il est responsable plus comme webmaster. Et moi, je fais pas mal de sourcing pour repérer des prototypes, tout en sachant qu'on met tous la main à la pâte sur le test des protos. Donc les jeux que l'on repère, on les repère soit très en amont, soit avec des protos quasiment finalisés. Et donc on est aussi bien capable de prendre un jeu, on va dire, au tout début et de l'amener jusqu'à un produit fini. Et on fait les salons et on rencontre les éditeurs et on place les jeux chez les éditeurs.
Ah oui, donc c'est...
On va appeler ça le couteau suisse de la création ludique, mais on peut tout faire de A à Z. Donc c'est de ce côté-là, on est assez unique sur le marché. Donc sur le marché français, oui. Donc mais enfin bon, même à l'international, il y en a pas beaucoup qui présentent l'offre qu'on présente, hein, Damien. Donc ça intéresse aussi bien évidemment les auteurs. Que les éditeurs, parce que les éditeurs ont aussi en stock beaucoup de protos, etc., donc à trier, à tester ou autre. Donc il y a des partenariats, oui.
Et Forgenex existe depuis un an et demi, pareil, ou c'est quelque
chose de récent ? Non, Forgenex, on l'a fait, on a créé ça officiellement au début de cette année. Parce que, à force de côtoyer donc les éditeurs, à un moment ou à un autre, la pression est devenue assez forte pour qu'on officialise ça par une structure qui, on va dire, qui tienne la route, donc une SARL, puisque pour être référencé chez des gens comme Ravensburger, Cosmos, etc., on peut plus faire ça en bénévole. Donc il faut qu'il y ait une structure derrière. Donc, on s'est tous regardés, et puis on s'est posé la question de savoir si on se lançait dans cette aventure ou pas. On n'a pas trop réfléchi longtemps et on a franchi le pas. Mais voilà.
Et quelques noms que vous avez de jeux qui sont connus, qui sont passés par vous et éventuellement qui sont édités ?
Bah, y en a pas mal qui sont en stock en ce moment chez des éditeurs et qui vont sortir. Donc c'est un peu chaud d'annoncer ça là, comme ça.
Ouais, je me doute bien vu l'âge de la structure, mais c'était ça, s'il y en avait déjà d'autres qui avaient réussi à arriver jusqu'à déjà à intégrer nos ludothèques.
On a aidé sur un certain nombre de choses, ouais, bien évidemment. Donc on bosse beaucoup avec Philo, on bosse beaucoup avec BlackRock, on bosse. Il y a le site de partenariat qui est mis à jour sur le site ForgeNext. Donc
ouais, vous avez une vingtaine déjà, je vois, d'éditeurs référencés.
Mm-hmm. Ouais. Et ça ne fait que grossir.
Et en termes de modules, oui. Qu'est-ce que votre prochain module, c'est quoi?
C'est Viracocha pour Sit Down.
D'accord.
Et Québec.
Et oui, et le suivant après, c'est effectivement Québec pour le Scorpion masqué. On travaille beaucoup avec beaucoup de Québécois. On a beaucoup de contacts là-bas.
C'est leur état d'esprit de se tourner vers vous. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose plus facilement assimilable pour des Anglo-Saxons, ou alors c'est juste comme ça parce que vous avez le feeling avec les Québécois.
Alors il y a, ouais, parce que on a pas mal de contacts pour différentes raisons, mais c'est vrai que c'est très facile de travailler avec des auteurs québécois. Donc on va pas se mettre à dos les auteurs français, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux.
Vous les connaissez physiquement, ou c'est juste vous avez juste des contacts à distance?
Alors il y a de tout. Il y en a, on les connaît physiquement. Il y en a, on les connaît que par Skype, malheureusement. Mais bon, de toute façon, on va.
Avec les décalages horaires en plus.
Oui, donc ça, par contre, effectivement, il y a des décalages horaires, mais avec les Américains, c'est la même chose. Donc, ouais. C'est oui, faut, on se couche pas forcément bien de bonne heure, ouais, c'est clair. Mais bon, ce qui fait que le lendemain au taf, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. C'est un rythme à prendre, on va dire. Donc oui, non, c'est très plaisant à travailler avec eux. Ils ont une approche vraiment très pro. C'est des gens qui sont assez réactifs sur les critiques qu'on peut faire, qu'on peut formuler ou autres, qui n'hésitent pas à se remettre en question. Je dis pas que de ce côté-ci de l'Atlantique, les gens le font pas, mais ils sont vraiment à l'écoute et ils sont vraiment demandeurs. Donc c'est vrai que c'est des bonnes collaborations qu'on a avec ces gens-là. Oui.
Vous êtes tous situé au même endroit géographique ou bien vous-même entre vous, vous êtes déjà par Skype et...
Eh bien, on est déjà un peu éclaté, on n'est pas forcément si loin que ça, mais Gaëtan est du côté d'Orléans, Bonnie est à Poitiers, les trois autres sont sur la région parisienne, mais c'est grand la région parisienne, donc on ne se voit pas forcément si souvent que ça.
Et ça ne vous pénalise pas forcément, enfin pour vous coordonner, du coup, c'est pas...
Absolument pas. Avec Skype, c'est extrêmement pratique.
On organise quelques week-ends de tests et on se voit assez régulièrement. Pour faire, quand même, on n'utilise pas uniquement Vassal pour tout ce qui est test de proto. Donc on essaye quand même de se voir assez régulièrement.
Oui, il y a des bonnes bouffes, oui.
Alors ça m'amène à parler de paris et ludique. Moi je comprenais pas trop, enfin je ne voyais pas trop dans quelles conditions vous pouviez participer à l'événement. Je comprends beaucoup mieux maintenant que je vous connais un peu plus que vous ayez une vraie place dans ce type de salon, enfin je dis salon de week-end ludique. Mm-hmm. Vous aviez un stand quelque chose ou c'était seulement
on n'a pas un stand en dur parce que ça c'est pas trop justifié. Par contre, on avait un emplacement, oui, pour au niveau de la zone de proto. Donc Forgenex avait un emplacement pour faire tourner un certain nombre de protos qui sont finalisés et qui sont prêts à être montrés au public et aux éditeurs.
Et vous attendez Essen, c'est une est-ce que pour parce que normalement dans le monde ludique, c'est un rendez-vous pour vous aussi ou alors vous en foutez?
C'est un rendez-vous. Alors en fait, comment ça se passe? T'as effectivement quelques dates comme ça, incontournables dans l'année. Tout ce qui est éditeur français, on peut les rencontrer quand on veut, n'importe quand. Il y a suffisamment de dates en France, ils sont la majorité sur Paris ou autre, donc on prend les rendez-vous, on les voit, on se fait une bouffe, c'est très facile. Après, se pose le problème quand t'as des visées à l'international, et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est quand même intéressant pour un auteur, c'est pas simplement de vendre des boîtes sur le marché français. C'est donc de rencontrer les éditeurs américains, les éditeurs allemands, et pour ça les Américains c'est SN parce que c'est le seul salon où ils viennent en Europe. L'autre, il faut aller soit à la Gen Con fin août aux États-Unis, soit à New York en février. Mais bon, il y a quand même des aspects financiers non négligeables, donc quand on aura vendu plein de boîtes de jeux, on pourra faire voyager un peu plus l'équipe. Et puis les Allemands, on les fait principalement effectivement à Nuremberg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cosmos, Ravensburger, ces gens-là, ils ont des phases de test des protos quand ils sont intéressés par un proto qu'on leur présente. Ça prend des mois et des mois avant qu'ils vous donnent. Ils ont tout un process très compliqué par stade, basé sur la lecture des règles, puis ensuite sur le test avec leurs premières équipes, puis ensuite ils ont des tests dans les familles allemandes, etc. Tout ça, ça prend des mois et des mois, et avec un écrémage des jeux au fur et à mesure, avant que ça aboutisse. C'est très très long. L'avantage des éditeurs français, c'est qu'ils vont pouvoir en général se décider beaucoup plus rapidement. Donc il y a des dates, effectivement. Donc, voilà, bon.
Et vous allez Cannes, loisir aussi un peu quand même.
Cannes, Toulouse. Le problème, c'est que pas des masses, hein, parce que Ouais, c'est un peu ça le problème. Donc, c'est un loisir, mais moi, enfin, chaque fois qu'on va à Essen ou qu'on va à Nuremberg, c'est non-stop sur les rendez-vous. T'as à peine le temps de boire et de pisser, donc voilà, c'est parce qu'on les enchaîne sans arrêt. Et Nuremberg, c'est colossal en termes de distance. C'est plusieurs fois la porte de Versailles au hall, donc suivant où sont placés les éditeurs. Il ouais. faut savoir que les rendez-vous, tu les enchaînes toutes les demi-heures ou toutes les heures suivant le nombre de jeux que tu présentes à un éditeur. Et voilà, bon, après, c'est une vraie machine de guerre. En général, on est deux par rendez-vous. Il y en a un qui déballe le jeu pendant qu'il y en a un autre qui explique les règles. Ils sont intéressés, ils ne sont pas intéressés. Paf, on passe au suivant. Tu déballes le deuxième jeu, tu présentes les règles. Ça se fait comme ça, quoi.
Ouais. Ouais, je connais des auteurs, effectivement, il y a des gens qui nous rabercent un peu.
Mais ça fait, on dirait que vous faites ça depuis longtemps, en fait.
On fait ça depuis un certain temps, ouais. Simplement, il a fallu structurer le truc parce que bon, bah, la pression devenait forte pour qu'on nous demande de le faire. On fait pas ça que depuis le mois de janvier. Et pour répondre peut-être à la question sous-jacente de comment on s'est rencontrés...
Bon, bah ça...
Bah, il y a des soirées échangistes, donc voilà.
Ah ben non, on a dit qu'on parlait pas de...
Non, il y a eu un bon vecteur avec en fait les protoludiques. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. L'association des protoludiques. Donc en fait, à l'origine, il y a quelques années, il y avait sur Paris des Proto Nights qui s'étaient organisés. Ouais. Où dans un lieu, il y avait l'interlude café au départ. Il y avait des soirées spécifiques dédiées aux protos. Donc les auteurs venaient, s'inscrivaient, on leur garantissait un certain nombre de joueurs et ils pouvaient faire tourner leurs protos pendant la soirée. Il y avait des fiches, ils avaient des retours, etc. C'est là où, en fait... Dans la structure qui s'était montée à ce niveau-là, ce qu'on avait appelé la protozone, bah, y avait moi, il y avait Arnaud, il y avait Gaëtan, Damien. Et puis, la mayonnaise a bien pris entre nous, alors que la mayonnaise dans l'assaut n'a pas pris. Donc, à un moment, on a dit c'est bon, quoi. On est parti, et puis on a fondé notre truc à côté.
Donc là, l'aventure Forge Next, comment ça s'appelle, mais... Vous avez donc pas mal de jeux, a priori, enfin, pas mal, quelques-uns, a priori, qui s'annoncent dans les prochains mois. C'est pour l'instant, c'est une aventure comme ça entre copains, mais à terme, vous imaginez vous lancer à fond dedans ou pas, ou vous voulez que ça reste une passion
On est tous des passionnés à la base, bien évidemment. On fait pas ça pour l'argent, parce que malheureusement, dans le monde du jeu de société, en vivre, c'est quelque chose de complètement utopique. Donc on a tous nos boulots à temps plein à côté. Bon, après, si on sort un best-seller, faudra voir, mais c'est vraiment pas... on court pas après ça, quoi. Donc c'est vraiment la passion. Enfin, bon... Faudrait interroger chaque membre de l'équipe pour savoir quel est le moteur. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'amener un projet jusqu'au bout, de mettre les mains dans la mécanique, d'aider, d'accompagner un auteur. Parce que la plupart, à part un certain nombre qui n'ont pas besoin d'avoir un agent ou autre, sont à un moment ou à un autre perdus dans leur process de développement ou bloqués à une certaine étape. Et donc, c'est intéressant de pouvoir travailler avec eux et d'arriver à les aider pour finaliser un projet et ensuite de le porter auprès des éditeurs et de voir l'intérêt que ça suscite. Ça c'est passionnant, ouais, c'est sûr.
Oui, vous êtes vous faites partie de la création, en fait. Vous êtes un maillon de la chaîne en termes de création ludique. Le terme agence ludique prend aussi tout son sens.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est sûr, c'est extrêmement chronophage, hein, donc ça, on va pas le cacher.
J'ai encore une question, du coup. Comment vous faites votre sélection du côté Forge Next, évidemment. Comment vous faites la sélection de jeux que vous allez essayer de porter plus loin? Parce que j'imagine que avec le temps, vous allez recevoir des tas, des dizaines, et vous pouvez pas tous.
Ouais, tout à fait. Réfléchir. Ouais, ouais. On a plusieurs voies pour abattre un petit peu les protos. Bah déjà parce qu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs qui nous envoient un certain nombre de règles et de jeux à tester, parce qu'on a aussi un certain nombre maintenant d'auteurs qui sont signés dans l'agence et qui ont aussi pas mal de jeux dans le pipe. On source aussi sur BGG, on fait beaucoup de salons. On a des contacts privilégiés avec pas mal d'éditeurs, donc on sait aussi ce que les éditeurs cherchent en ce moment, quel type de jeu, quelle gamme, etc., etc. Donc avec tout ça en tête, ça nous permet d'affiner nos critères de recherche quand on voit des règles ou quand on reçoit des règles. Donc voilà, il y a des jeux qui peuvent être potentiellement intéressants, mais qu'on prendra pas parce qu'on sait que bon. Il y a peu de chances qu'on arrive à le porter jusqu'au bout de l'édition.
Vous êtes lucide. Donc,
oui, tout à fait. Bah, il faut. C'est-à-dire, après, le but du jeu n'est pas non plus de dépenser une énergie folle pour rien. Donc, oui, il faut être réaliste. Autrement, c'est pas forcément un service à rendre à un auteur. Après, il y a d'autres voies. Pour l'édition, hein. Vous avez les P500, les Kickstarter, il y a des choses communautaires, donc on réfléchit aussi à ce genre d'autres choses qui font qu'on peut s'écarter de la voie classique de l'édition. Hein.
Et est-ce que l'un ou l'autre de vous a des ambitions de création de jeux ?
C'est déjà le cas.
Oui, pour Arnaud Hurmont.
Et Gaëtan.
Et Gaëtan.
Et Bonnie.
Oui, donc vous avez vraiment des ambitions de création ludique, ouais, tout à fait.
En fait, vous avez pioché les deux mauvais, quoi. Qui...
Ceux qui sont pas créatifs pour deux sous.
Alors oui, mais pas nous.
Ouais. Bah, mais Bonnie, il en faut aussi. Hein. Bonnie dans l'année, Gaëtan, ça arrive aussi, et Arnaud en a déjà sorti quelques-uns aussi. Et
il a fait Jurassic, c'est ça ?
Sherlock,
il est l'éditeur, mais c'est Charles Chevalier, mais son Sherlock et d'Arnaud, il y a le
ouais, j'aime beaucoup les graphismes.
De Bonnie, justement. Ouais.
C'est Bonnie qui fait tous les pour Illopelli, c'est lui qui fait les graphismes, d'accord.
Pour le moment, oui.
D'accord. J'aime beaucoup. J'attends Sherlock Holmes avec impatience.
Je suis dans le même état d'esprit.
Arnaud. Oui, Arnaud avait fait Chronos. Monte Cristo,
ouais, on connaît Utopia. Utopia.
Alors, ça veut dire que est-ce que à terme vous pourriez ne plus être un intermédiaire entre les créateurs de jeux et les éditeurs, mais que est-ce que vous avez envie de passer le pas et devenir éditeur ?
Non, pas du tout. C'est deux métiers complètement. Enfin bon, là, je pense que je parle à peu près pour tout le monde dans le groupe. Non, c'est complètement deux métiers complètement différents à part. L'édition nous intéresse pas.
D'accord.
Et à part Arnaud qui joue un peu sur tous les tableaux, mais c'est un peu différent pour lui. Et donc, par exemple, donc là, moi, si j'ai des idées, j'ai un jeu, je suis en train de le tester, etc. Après, éventuellement, je vous l'envoie.
Ouais, tout à fait, ouais.
Non, mais on peut recevoir les règles. Après, il faut quand même que ça soit un tant soit peu, un petit peu testé du côté de l'auteur et que ça tourne quand même déjà un petit peu.
Et là, en l'occurrence, vous avez beaucoup de sollicitations ou alors c'est plutôt votre la communauté éditeur-auteur que vous connaissez déjà et puis les gens qui ont peut-être poussé des modules Vassal que vous portez, ou alors est-ce qu'il y a des gens, des inconnus qui viennent vers vous en vous disant bah, « moi j'ai un jeu, faites-en un module Vassal ou allons plus loin ». Allons plus loin, c'est peut-être un peu tôt maintenant pour que vous ayez ce genre de sollicitation, mais est-ce qu'on vous a demandé justement de porter des jeux qui étaient complètement inconnus et qui... d'auteurs inconnus, hein, de gens qui étaient complètement inconnus du monde ludique.
Ouais, donc là on a en fait deux approches. La philosophie, c'est pas de porter sur Vassal tous les jeux qui nous passent entre les mains. C'est pas du tout le but. Et la majorité des, on va dire que les 4/5 des auteurs avec qui on travaille sont des auteurs qui n'ont jamais édité aucun jeu. Donc ça aussi c'est important, c'est des gens qui sont qui ont vraiment besoin de support dans le dans la création ludique pour finaliser leur projet, les amener jusqu'au bout. Knizia n'a rien à faire d'un agent ou de Vassal Forge par exemple.
Knizia
c'est pour agent, hein. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que on fait pas mal de salons, qu'on pour repérer effectivement les jeux, pour que les gens viennent vers nous, etc., etc. Donc on porte pas tout sur Vassal, non, loin de là. Autrement, on n'y arriverait pas. Hein. Il faudrait plusieurs programmeurs à plein temps. Et après, avec les éditeurs, c'est pareil, ça dépend. On porte pas tout ce que les éditeurs vont nous mettre. C'est haut. Cas par cas, suivant les projets qui nous sont soumis.
Ok. Ok, bah c'est intéressant parce que moi je connaissais les modules Vassal, enfin le moteur et cet aspect-là de Vassal. Et j'imaginais pas du tout qu'on puisse jouer ce rôle de porteur d'affaires, je dirais, auprès des éditeurs.
C'est même plus que porteur d'affaires, c'est ce que j'apprécie dans la démarche, c'est que ça vous améliorez, enfin vous testez les jeux, etc.
Aussi, on peut parler de pépinière aussi, enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. Quand je dis porteur d'affaires, c'est pas négatif.
Non, mais justement, c'est. Ouais.
J'aime bien le mot pépinière, et puis bon, l'actualité fera qu'on communiquera un peu plus sur la partie pépinière, effectivement, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est on repère des projets et on les aide à aller vraiment jusqu'au bout. Donc ça, effectivement, c'est vraiment le cœur de la forge.
Damien, Laurent, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de temps.
Merci à vous.
Et puis, longue vie à Forge Next. Hein.
Bon, ça marche. On est déjà assez âgés, donc c'est bon.
Merci, au revoir.
Au revoir.